Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. En fin de semaine, jeudi et vendredi, se déroulent les quatrièmes journées de l'Agence de la biomédecine à l'Université Paris-Descartes. 10 ans après sa création, nous allons parler du rôle de cette agence. Elle encadre d'une part le prélèvement et la greffe d'organes, mais aussi les diagnostics prénatales, préimplantatoires et génétiques, et la recherche sur les cellules souches et l'embryon humain. Une action qui soulève à la fois des questions médicales, scientifiques et éthiques. Cette année, le thème porte sur la médecine personnalisée, altruisme et solidarité. On en parle avec le docteur Karim Laouabdia, qui est directeur général adjoint de l'Agence de la biomédecine en charge de la politique médicale et scientifique, et Nikos Kalampalikis, qui est professeur de psychologie sociale, directeur du laboratoire Krebs à l'Université Lyon 2. Et si vous avez envie de participer, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Et pour terminer, nous parlerons de la canicule qui sévit en ce moment au Nord Bénin. On en parle très peu avec le docteur Moussa Mamambello, qui est maire de Karimama, médecin et tradipraticien. Et on retrouvera la chronique nutrition de Stéphane Besançon.
RFI.
Docteur Karim Laouabdia, bonjour.
Bonjour.
Et Nikos Kalampalikis, bonjour. Vous êtes en direct des studios de Radio France à Lyon.
Absolument, bonjour.
Bonjour, parce que vous êtes basé à Lyon, vous travaillez à Lyon. Merci tous les deux d'être avec nous. Docteur Karim Laouabdia, quel est le rôle de l'Agence de biomédecine? J'ai essayé, moi, de la définir, mais j'imagine que vous avez un peu plus de choses à nous dire.
Écoutez, l'Agence de la biomédecine est une agence sanitaire de l'État. Donc, effectivement, c'est un établissement public administratif sous la tutelle du ministère de la Santé. Et elle a des missions qui lui sont conférées par la loi de bioéthique, c'est-à-dire l'encadrement de toute l'utilisation thérapeutique des éléments et des produits du corps humain, excepté le sang qui est de la responsabilité de l'établissement français du sang.
Tout ce qui, entre guillemets, pourrait poser problème, en fait, pourrait poser des problèmes éthiques.
Quand vous touchez à l'utilisation des éléments et des produits du corps humain, effectivement, ça pose des questions éthiques évidentes.
Mais ça veut dire que le quotidien d'une agence de biomédecine, c'est quoi ?
Le quotidien de l'agence de biomédecine, c'est effectivement d'encadrer, de superviser, d'évaluer les activités qui sont dans son domaine de compétence, mais aussi toute la promotion et l'information sur les activités qu'elle mène et sur les dons des éléments et des produits du corps humain.
Ça veut dire que vous avez un rôle de contrôle pour savoir si c'est fait dans les règles de l'art et dans les questions, enfin justement éthiques qui peuvent se poser. Mais est-ce que ça veut dire aussi que vous justement vous faites des contrôles sur place de ce qui se fait?
Dans certaines spécialités, effectivement, mais en général, on a un rôle, effectivement, de contribuer au respect de la loi et de la réglementation, d'évaluer les activités qui sont de notre responsabilité, et donc on rend compte après au gouvernement, effectivement, et à l'État des activités qui sont menées. Est-ce qu'on a un contrôle sur place, qu'on appelle une inspection dans le domaine, dans le jargon des agences sanitaires? Oui, dans le domaine du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire. Non, dans les autres domaines où, par contre, on travaille avec les agences régionales de santé qui, elles, ont cette faculté d'autoriser les activités dans le domaine de la greffe, dans le domaine de l'AMP et dans les autres domaines, effectivement. Et on peut informer, former, accompagner les inspecteurs des ARS.
Nikos Kalampalikis, quel est votre rôle à vous? Je l'ai dit en vous présentant, vous êtes professeur de psychologie sociale. On se demande un peu ce que vous venez faire dans une agence de biomédecine.
Et pourtant...
votre rôle est très important, mais c'était bien que vous l'expliquiez.
Je ne sais pas si mon rôle est important. En tout cas, je pense que effectivement, les sciences humaines et sociales que je représente au sein du Conseil médical et scientifique de l'Agence de la biomédecine depuis maintenant presque 3 ans ont leur mot à dire justement par rapport à toutes ces questions médicales et éthiques surtout qui se posent à propos de l'activité de l'agence que Karim Laouabdia a décrit tout à l'heure. Moi-même, j'ai rencontré, si j'ose dire, l'Agence de la biomédecine en tant que chercheur d'abord vers 2008-2009, puisque l'agence propose au moins deux appels d'offres dans l'année, dont un qui s'adresse spécifiquement aux recherches en sciences humaines et sociales qui portent sur les sujets que traite l'agence. Et donc, du coup, c'était dans le cadre de la demande de financement qui, par ailleurs, m'a permis justement, avec l'aide de la Fédération française des SECOS, de mener une recherche multicentrique nationale sur le don de sperme en France.
Et de façon très concrète, par exemple, comment vous travaillez avec l'Agence de biomédecine ?
Alors, il y a deux manières de travailler. En ce qui me concerne, effectivement, là, le premier contact, je l'ai dit, c'était en tant que chercheur dans la recherche d'un financement qui a été attribué et qui a permis, du coup, la réalisation d'une recherche. Et dans un deuxième temps, on m'a proposé de devenir membre du Conseil médical et scientifique. Ça veut dire que là, pour le coup, je suis davantage impliqué dans la discussion avec mes collègues médecins sur des questions qui touchent, justement, tous ces aspects éthiques en rapport avec la procréation médicalement assistée, bien sûr, mais aussi l'intervention du technique et du technologique, du médical, dans le social, dans l'humain.
On reviendra sur toute la recherche que vous avez menée sur le don du sperme et ce qu'il en est ressorti. Vous vouliez réagir, Karim Laouabia ?
Oui, effectivement, simplement pour préciser sur le rôle du comité médical et scientifique dont fait partie Kalampalikis. Et effectivement, normalement, c'est le travail quotidien de l'agence de travailler avec les professionnels pour l'élaboration de stratégies thérapeutiques, de diagnostics ou pour les règles de bonne pratique organisationnelle en général, parce que les règles de bonne pratique professionnelle sont faites par les sociétés savantes. Donc, effectivement, les groupes de travail produisent des recommandations qui sont après présentées au conseil médical et scientifique qui les évalue, qui les demande de les retravailler
et
qui les valide ou pas. Donc, et aujourd'hui, de plus, nous avons ajouté dans cette chaîne de validation, si on peut dire, les associations de patients, les associations de la société civile, qui doivent avoir un regard sur ces activités qui sont effectivement très qui posent énormément de questions éthiques, comme vous l'avez rappelé.
Si on prend comme exemple, ou la dernière réunion, ou la prochaine, par exemple, vous avez parlé de quoi, ou vous allez parler de quoi ?
Bah écoutez, j'ai pas encore le détail de tout l'ordre du jour de la prochaine réunion. Il y a deux comités médicaux et scientifiques. Il y en a un sur les greffes, en général, prélèvement et greffe d'organes, de tissus et de cellules, et sur les activités de la procréation, de la génétique et de l'embryologie. Et donc, pour le prochain, on va soumettre ce qu'on appelle soit des points d'infos sur l'avancée des travaux concernant des recommandations, soit des validations de stratégies diagnostiques qui ont été validées par les groupes de travail et qui devront être présentés au Conseil médical et scientifique.
Alors justement, vous l'avez évoqué, parlons des greffes. En fait, en gros, on manque de donneurs. C'est un des principaux problèmes qui vous est soulevé.
Ben, on manque effectivement de donneurs au vu des indications qui ont évolué et qui sont beaucoup effectivement augmenté la greffe, enfin les activités de greffe en général. Donc on manque de donneurs puisque il y a à peu près 20 000 personnes qui étaient en attente d'un greffon en 2014.
Tout greffon confondu.
Tout greffon confondu. Mmh. Et il y en a 5 357 qui ont été greffés.
Donc il y en a encore 15 000 en attente.
Absolument.
Plus tous ceux qui se rajoutent à chaque fois.
Ceux qui se rajoutent à chaque fois, exactement.
Et alors, qu'est-ce que peut faire l'Agence de biomédecine pour favoriser le don ?
Ben écoutez, l'Agence de la biomédecine, de par le Code de la santé publique, et donc ce que lui a confié le législateur, c'est de promouvoir le don d'organes et de sensibiliser, d'informer la population sur la possibilité de donner ses organes, soit de son vivant, on peut donner un rein, soit après son décès, effectivement, donner ses organes. Et c'est pour ça que l'agence, le message principal qu'elle porte, c'est de dire, informez votre famille, votre entourage, sur votre décision après votre décès.
C'est ça, il n'y a pas forcément besoin de remplir un papier, d'avoir une carte de donneur, il suffit de dire à son entourage.
Non, normalement, vous pouvez refuser, puisque de toute façon, tout don d'éléments du corps humain est basé sur le consentement, l'anonymat, la gratuité. Donc, vous pouvez très bien être opposé au don d'organes, donc vous pouvez le manifester auprès d'un registre des refus qui est tenu par l'Agence de la biomédecine.
La France connaît un taux de refus assez important, beaucoup plus important, par exemple, que l'Espagne. Pourquoi on n'arrive pas mieux ?
Écoutez, effectivement, d'abord parce qu'on a une organisation des activités de soins et des activités de prélèvement qui sont différentes de ce modèle espagnol, du fameux modèle espagnol, qui est champion de toute catégorie, il faut le reconnaître. Et donc, à l'Agence de la biomédecine, on a essayé effectivement de comprendre les raisons de ce taux de refus qui avoisine entre 30 et 33% en général, en moyenne, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, et de travailler sur ces déterminants du refus qui peuvent être liés à l'accueil en réanimation quand la personne, avant que la personne décède, qui peuvent être liés à des convictions personnelles, qui peuvent être liés à des tas de raisons sur lesquelles nous travaillons et nous essayons de former les coordinatrices de prélèvement, ce qu'on appelle les coordinatrices de prélèvement, qui est un métier qui est une spécialité qui n'est mal reconnue aussi, si vous voulez, au sein du corps médical, infirmier et médecin, et donc qui peut générer cette espèce de peut-être démotivation et de turnover, comme on dit, qu'on vous constate effectivement au sein des équipes de prélèvement.
Mais le fait, excusez-moi de poser crûment la question, mais le fait qu'on fasse pas mieux, est-ce que c'est pas de la responsabilité aussi de l'Agence de biomédecine qui fait pas, j'en sais rien, j'essaye de comprendre pourquoi on n'arrive pas à faire mieux, on devrait pouvoir faire mieux.
L'Agence de biomédecine n'est pas directement opérationnelle sur le terrain. Ce sont des équipes hospitalières qui travaillent, aussi bien des médecins dans le domaine de la greffe, des médecins dans le domaine du prélèvement, des infirmiers dans le domaine du prélèvement. Donc nous essayons de les appuyer, de les former dans ces spécificités, par exemple, qui touche par exemple à l'abord, ce qu'on appelle des proches, des familles au moment du décès, pour, si la personne n'a pas fait connaître sa volonté de son vivant, de comprendre quelle était la personnalité de la personne et si elle pouvait
faciliter
ou pas
la prise de décision.
Faciliter, non pas la prise de décision par la famille, parce que on est dans un régime de ce qu'on appelle de consentement présumé normalement, donc, mais par contre de voir avec la famille quelle était la position du défunt sur ce sujet.
Et c'est là que des gens comme Nikos Palankalikis peuvent aider sur ces questions justement de psychologie sociale.
Oui, tout à fait. Si on prend effectivement le don de gamètes, il y a une assez forte méconnaissance, en tout cas, de cette technique de procréation médicalement assistée, d'une part, dans la population générale. Il y a aussi énormément de débats, si j'ose dire, sociétaux. On a vu ces dernières années avec les états généraux de bioéthique. Plus récemment,
On va venir au don de gamètes, mais là on était sur la question de la greffe. On voit bien, alors je sais que c'est pas forcément exactement votre domaine, mais on voit bien cette question du refus. Mais c'est là que des gens comme vous peuvent intervenir pour faire des recherches et pour qu'on comprenne pourquoi il n'y a pas plus de donneurs en France.
Oui, tout à fait, absolument, parce que ceci effectivement correspond à une perception, à une représentation, comme nous on dit, sociale, qu'ont les gens un peu de ce type-là de dons, de différents types donc de dons, et par conséquent c'est ceux qui parfois bloquent, y compris l'ignorance ou la désinformation ou la mésinformation bloquent, en tout cas dans la prise de décision, dans le passage à l'acte.
Et ça veut dire qu'il faut en parler plus souvent ?
Il faut en parler plus souvent, parler plus correctement, ne pas forcément tomber dans le tout médiatique à chaque fois ou dans le cas exceptionnel et extravagant, organisé du côté de l'agence. Je pense que le travail est très bien fait ces derniers temps, ces dernières années. La communication, et donc du coup pouvoir permettre aux personnes d'accéder aux informations, de réduire un peu les différents fantasmes et de réussir du coup, lorsqu'on le souhaite, un passage à l'acte.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons du rôle de l'Agence de biomédecine à l'occasion des 4e journées de cette agence qui se déroule en fin de semaine et aussi des 10 ans d'ailleurs de cette agence de biomédecine qui a été créée il y a exactement 10 ans. Nikos Kalampalakis, je l'ai dit, vous êtes professeur de psychologie sociale, directeur du laboratoire CREPS à l'Université Lyon-Dieu. Vous nous direz un petit peu d'ailleurs quel est le rôle de ce laboratoire. Mais vous avez fait, vous nous l'avez dit dans la première partie de l'émission, toute une recherche sur le don de sperme. Alors racontez-nous sur quoi portait exactement cette recherche et qu'est-ce qui en ressort ?
Alors c'est une recherche qui a été déroulée sur toute la France en deux phases, entre 2008 et 2010 dans un premier temps et entre 2010 et 2013 dans un deuxième temps. Alors, c'est une recherche qui a été donc menée grâce à un financement de l'Agence de la biomédecine, mais aussi de la région Rhône-Alpes, et portée sur les enjeux psychosociaux du don de sperme. On l'a réalisé en partenariat scientifique avec la Fédération française des SECOS. Les SECOS, c'est les centres qui, en France, permettent, en tout cas, la réalisation de ces techniques de procréation médicalement assistée. Et alors, la question nous a été posée dans un premier temps directement par les SECOS, qui sont venus nous chercher pour nous dire, très bien, depuis 73, on a un certain nombre de personnes justement qui viennent nous trouver parce qu'ils ont besoin de dons, donc dons de sperme là pour le coup. En France, c'est pour les couples hétérosexuels dans lesquels très majoritairement il y a une infertilité masculine. Et de l'autre côté, on a des donneurs qui viennent donner leur sperme, mais on ne sait pas très bien comment ils le vivent, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils font avec, etc. Donc, on est allé du coup faire une recherche avec eux sur la manière dont cette technique de procréation médicalement assistée est vécue par les acteurs, notamment par les acteurs, c'est-à-dire ceux qui demandent, les couples demandeurs d'un côté, et ceux qui donnent, les donneurs de l'autre.
Et concrètement, comment vous avez fait ?
Alors concrètement, c'était pas facile parce que justement en France, la procréation médicalement assistée avec don de gamètes se déroule justement dans les SECOS et donc du coup ça conditionne, si j'ose dire, l'accès du point de vue de la recherche à ces lieux et à ces personnes. Je peux vous donner un exemple extrêmement précis. Prenons le cas des donneurs de sperme. L'activité de ce don-là est telle que évidemment, c'est un tabou social. Évidemment, vous n'allez pas croiser dans la presse ou dans l'espace social des associations
de
donneurs de sperme ou de clubs de donneurs de sperme. Donc, la question prioritaire qui se pose, c'est « Ok, je veux faire une recherche là-dessus, mais les trouver où exactement peut-on les trouver ?»
Et donc, concrètement, vous êtes allé dans les SECOS ?
La réponse était effectivement d'aller dans les SECOS. Néanmoins, pour des raisons éthique et déontologique, on ne pouvait pas accéder à des informations relatives aux donneurs des années précédentes.
Donc, puisque c'est anonyme.
Absolument, et puisque c'est confidentiel et anonyme, donc du coup, on n'a pu travailler qu'avec les donneurs, les hommes qui étaient donneurs, au moment de notre enquête. Donc ça, peut-être que vous comprenez que ça conditionne énormément le rythme de l'enquête et la manière d'accéder à cette population-là. Par ailleurs, pour les couples demandeurs, c'était exactement identique, c'est-à-dire, on a pu travailler que avec des personnes, des couples, qui étaient dans une démarche de demande d'un premier don ou d'un second don au moment de l'enquête. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays.
Et concrètement, qu'est-ce qu'il ressort de cette étude ?
Concrètement, du côté, par exemple, des couples demandeurs, on a interrogé plus de 900 membres de couples demandeurs de dons de sperme. Ce qu'on a pu constater, c'était justement leur détermination, en tout cas leur approbation extrêmement massive de l'anonymat et de la gratuité, c'est-à-dire des deux principes qui fondent le don de sperme en France. D'une part. D'autre part, le fait que ce sont justement des personnes qui ne souhaitent pas connaître le donneur. Ils pensent par ailleurs que le donneur n'a pas à connaître les enfants qui a permis de concevoir, tout en ayant un sentiment extrêmement fort de gratitude envers ce donneur-là. Par ailleurs, donc, effectivement, cette énorme majorité de couples qui restent attachés au principe de l'anonymat et de la gratuité, à l'intérieur, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Ce que je vous dis, par exemple, à propos du donneur, c'est que ils ne souhaitent pas le rencontrer. Lorsqu'on leur demande s'ils veulent avoir des informations identifiantes concernant le donneur, y compris la photographie, ils ne le souhaitent pas. Néanmoins, il n'est pas pour autant oublié, ce donneur-là. Donc il y a de l'ambivalence aussi, forcément, dans ces cas de figure. Et par ailleurs, ce qui nous intéressait tout particulièrement, c'était de savoir ce qu'ils font, si j'ose dire, comment ils gèrent, comment ils font face à cette création, en tout cas, de cellules familiales à travers l'appel à une tierce personne, là, pour le coup.
Et comment on informe aussi l'enfant et on y reviendra dans 3 minutes, hein, si vous voulez bien, juste après les informations, toujours donc pour parler du rôle de cette agence de biomédecine.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons du rôle de l'agence de biomédecine. Greffe d'organes, diagnostic prénatal, préimplantatoire et génétique, recherche sur les cellules souches. Mes invités pour en parler, le docteur Karim Laouabdia, qui est directeur général adjoint en charge de la politique médicale et scientifique à l'agence de biomédecine, et Nikos Kalampalakis, qui est professeur de psychologie sociale, directeur du laboratoire Greffe à l'université Lyon 2. Kalampalakis, juste avant les informations, on était en train de parler des recherches que vous avez menées sur le don de sperme. Vous nous avez dit ce qu'il en ressortait du côté des couples qui étaient receveurs. Et entre autres, vous étiez en train d'aborder toute la question du comment est vécu finalement l'arrivée d'une tierce personne, en gros, avec ce don de sperme. Et aussi un peu, qu'est-ce qu'on dit à l'enfant ?
Exactement. En fait, les 3/4 des couples que nous avons interrogés ont déclaré avoir décidé de parler à leur enfant aussi bien des problèmes de fertilité rencontrés que de son mode de conception, mais également plus précisément de l'insémination artificielle avec donneur de sperme. Donc, les couples, en tout cas en France, contrairement, je dirais, à plein d'autres pays où on a, dans des études transnationales comparatives, des résultats légèrement différents, même sensiblement différents, ont incorporé le principe de vouloir, en tout cas, parler à leur enfant. Dans le cadre de cette recherche, 1/4, en tout cas, des couples interrogés avaient déjà un enfant et procéder à une deuxième démarche pour un second don de sperme. Chez ceux-là, effectivement, on a pu approfondir davantage en allant jusqu'à la structure du récit, si j'ose dire, proposé à l'enfant. Néanmoins, il faudrait pouvoir disposer, pour la France en tout cas, des échantillons, faire des recherches longitudinales pour voir sur le long terme, lorsque l'enfant a 5, 8, 10, 15 ans, justement, comment ça se passe. Parce que on manque en tout cas de données statistiques fiables sur la question.
C'est-à-dire pour savoir quoi ? Quelle est l'envie de l'enfant ? Est-ce qu'il a envie de savoir qui a été le donneur, par exemple ?
Alors, on n'a pas interrogé des enfants, là, pour le coup. On a interrogé les couples, les parents et les futurs parents. Néanmoins, il y a, d'une part, une extrêmement sincère intention de parler à l'enfant, ce qui nous a été très majoritairement dit. Mais il y a aussi le passage à l'acte, le récit effectif à l'enfant. Ça, on l'a vu.
C'est-à-dire, je veux en parler, mais de là à en parler réellement, c'est ça que vous êtes en train de dire ?
Mais je veux en parler, mais je ne sais pas comment faire. Je veux en parler, mais je ne sais pas quand exactement il faut le faire. Le quand et le comment sont des facteurs extrêmement capitaux dans cette histoire. Par ailleurs, n'oublions pas que ces couples-là, c'est des couples qui ont traversé une durée, en tout cas temporelle, assez longue, entre le moment où un couple hétérosexuel, toujours en France, hein, parce que la loi ne permet l'accès à la PMA que aux couples hétérosexuels. Donc, entre le moment où ces personnes-là souhaitent imaginer un projet justement de procréation, le moment où ils rencontrent, découvrent le problème, et le moment où ils vont faire appel au don de sperme jusqu'à ce que ça marche, ben, il y a un laps de temps quand même extrêmement important. Donc, le
genre combien d'années ?
De très nombreuses années, ça dépend beaucoup des couples. À partir du moment où un couple décide de faire appel à la PMA avec don de sperme dans un sécos, c'est minimum une année pour que la démarche commence. Hein. Donc, il faut compter au moins 2 ans.
Vous venez de nous parler très largement des couples receveurs. Votre enquête, elle menait aussi sur les donneurs. Qu'est-ce qu'il ressort justement de cette recherche ? Alors, qui sont ces donneurs ?
Ces donneurs sont des hommes qui, la plupart des fois, arrivent vers le don de sperme à travers différentes manières. Il y a des hommes qui, que nous on appelle des donneurs spontanés, qui sont des hommes qui, globalement dans leur vie, sont ancrés dans un don de solidarité ou dans l'idée même de la solidarité sociale. Donc c'est des hommes qui donnent de manière générale, ce sont des donneurs de sang, mais aussi de dons humanitaires. Donc du coup, ils s'orientent vers le don de sperme, si j'ose dire, naturellement, c'est-à-dire étant donné qu'ils ont une activité assez prononcée de don et étant eux-mêmes inscrits dans un principe de solidarité sociale et d'altruisme. Il y a également, de plus en plus en France, un autre profil de donneurs de sperme qu'on appelle les donneurs relationnels. De par la relative pénurie, en tout cas, de donneurs en France, il y a différents centres, différents sécos, qui proposent aux couples demandeurs d'amener un donneur, non pas pour eux, bien sûr, mais pour augmenter le nombre de donneurs, en tout cas en France, ce qui permet de traiter un peu plus rapidement leur propre dossier. Donc ce sont des donneurs relationnels, c'est des hommes qui n'avaient pas forcément connaissance du don de sperme, mais qui ont été sensibilisés au sein de leur entourage très proche, amical, familial, et qui sont devenus donneurs, du coup, pour rendre service à un couple. Je le répète, leur don ne va pas à ce couple-là. Néanmoins, ils participent à l'accélération du traitement, en tout cas, du dossier de ce couple qu'ils connaissent. Donc ça, c'est les deux profils majoritaires de donneurs, en tout cas, qu'on retrouve en France. Il y a également un troisième minoritaire, qui sont des hommes qui entreprennent une démarche de vasectomie et qui découvrent, du coup, la possibilité de donner également du sperme dans le cadre des sécos.
D'une conservation aussi de leur sperme, s'il y a quoi que ce soit, c'est ça?
Également, exactement, c'est toujours conseillé, en tout cas, à ces hommes-là de le faire, parce que la vasectomie, elle est irréversible. Donc, du coup, par la même occasion, ils découvrent l'activité des sécos et ils deviennent donneurs.
On manque de donneurs.
On manque de donneurs, on manque partout, dans tous les pays des donneurs, indépendamment, si j'ose dire, du cadre législatif. On compte environ à 300 le nombre de donneurs minimal pour répondre, en tout cas, à la demande des couples demandeurs. On est en France actuellement, sur la base des chiffres, en tout cas, de l'agence, à 268 donneurs. C'est les dernières estimations, les derniers chiffres, en tout cas, parus.
Une réaction par rapport à ça, docteur Laouabdia, c'est aussi le rôle de l'agence de biomédecine, finalement, de promouvoir ce don de sperme. Et puis, autre question, c'est finalement pourquoi la France tient tant à l'anonymat?
Ben écoutez, c'est pas que la France. Je pense que ces activités sont au niveau international encadrées par ce qu'on appelle la Convention d'Oviedo sur la biomédecine et les droits de l'homme, et qui effectivement explicitement dit très clairement que les dons doivent être anonymes, gratuits et avec consentement de la personne, évidemment.
Gratuit aussi en indispensable.
Gratuit, indispensable. Je pense que c'est justement ce dont parlait Nikos, effectivement sur les aspects de solidarité sociale, d'altruisme,
de non-marchandisation
du corps humain. Donc tout ça fait que, effectivement, parce que le risque, quand on paye, je veux dire, on sait que, on l'a vu dans le don du sang et on l'a vu en Afrique particulièrement quand il y a des paiements des fois de don du sang, on n'a pas toujours les gens ont tendance peut-être à cacher les pathologies ou les maladies qu'ils ont eues. Donc je pense que l'anonymat est important pour éviter, dans le domaine de la greffe, mais aussi dans le domaine, on l'a vu, de la procréation, je veux dire, qu'il y ait une pression sur les receveurs. Après, effectivement, on peut discuter. Je veux dire, c'est pas une position personnelle. Moi, je suis là pour appliquer, effectivement, la loi, et la loi est très claire sur le sujet. C'est l'anonymat du don de gamètes. Donc, l'agence, vous me posiez la question, l'agence, effectivement, a pour rôle de promouvoir les dons, et tous les dons des éléments du corps humain. Donc, les dons de gamètes, en général, d'ovocytes et de spermatozoïdes sont importants. Il y a une campagne radiophonique qui va débuter la semaine prochaine. La campagne du 22 juin sur les dons d'organes va être aussi au niveau de l'agence. Il est important, effectivement, puisque tous nos systèmes de santé sont basés sur la solidarité, de montrer aux Français que, dans le cadre de cette solidarité, ils peuvent aussi donner des organes et sauver des vies.
C'est important. On va repartir sur la question de la greffe d'organes. On a au téléphone le professeur Apollinaire Nyonsae, qui est chef du service de néphrologie au CHU de Yopougon à Abidjan en Côte d'Ivoire. Professeur Nyonsaï, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Quelles sont les greffes qui sont réalisées en Côte d'Ivoire?
Pour l'instant, nous réalisons la greffe de rein. Et la greffe, c'est uniquement celle qui est réalisée pour l'instant.
Et par exemple, vous avez réalisé combien de greffes jusqu'à maintenant de rein?
Depuis 2012, nous avons réalisé 15 greffes.
Ces greffes, à chaque fois, sont réalisées avec des donneurs vivants?
Oui.
Est-ce que vous cherchez justement à développer la greffe de personnes décédées?
Bien sûr. Nous espérons arriver à faire la transplantation à partir de donneurs décédés, mais il nous faut pour cela une infrastructure appropriée. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le président de la République, Alassane Ouattara, a signé un décret en 2012. Le décret n'est pas encore appliqué, mais c'est dans le but de créer une structure qui va pouvoir permettre cette approche.
Pourquoi c'est plus compliqué? Expliquez-nous en quoi c'est plus compliqué.
La greffe à partir de donneur décédé?
Oui.
Ben parce que c'est différent. Parce que le donneur vivant apparenté, c'est plus facile d'obtenir le consentement. Et ensuite, le prélèvement se fait sans trop de... On n'a pas besoin de beaucoup d'équipement pour faire cela. La conservation du rein n'est pas... Du très peu de temps, tandis que pour faire la greffe à partir de teneurs décédés, il faut une infrastructure appropriée, il faut un service de réanimation, il faut des services de transfert d'organes à partir du donneur vers le receveur. Donc c'est toute une structure qu'il faut organiser, c'est tout un système qu'il faut mettre au point.
Mais que vous êtes en train d'essayer de mettre au point, justement?
Exactement.
Et qui est-ce qui travaille là-dessus? Comment vous vous faites aider pour ça?
Je travaille avec mon équipe, le professeur Anguessan Akundu. Nous travaillons avec les chirurgiens et nous sommes assistés par le docteur Wang de l'hôpital Erasme de Bruxelles et le professeur Ben Abdallah de Tunisie.
Ce sont avec eux que vous avez des partenariats de coopération sur ces questions-là. Docteur Karim, oui. Laou Abdia, justement, qu'est-ce que fait l'Agence de biomédecine pour aider les pays en développement à monter peut-être d'abord une structure d'agence de biomédecine et à faciliter la greffe?
Oui, pour démarrer, vous n'avez pas obligatoirement besoin d'une structure d'agence de biomédecine qui effectivement regroupe toutes ces activités. Non, ce que je voudrais dire, effectivement, l'agence, elle a des activités de coopération avec des pays, essentiellement l'Afrique du Nord, mais pas seulement. Et le Sénégal. Et effectivement, nous avons travaillé. Alors, en général, l'agence est saisie soit par le gouvernement. Puisqu'on est une agence d'État, donc on est obligé d'être saisi par un gouvernement, obligatoirement, ou par l'ambassade de France qui est représentée localement, donc pour pouvoir intervenir. On intervient en général sur les aspects, tout ce qui est législatif et éthique, parce que avant de démarrer les greffes, il faut aussi un encadrement juridique qui soit très précis pour éviter effectivement tous les questions de trafic ou les questions liées à une mauvaise utilisation ou une mauvaise pratique. Donc on intervient sur ces aspects-là et puis après sur les aspects plus de former les médico-professionnels, les aspects médico-techniques.
Donc former les professionnels.
Former les professionnels dans ce domaine-là avec des partenariats de CHU à CHU. Mmh. Donc le professeur signalait effectivement que c'est plus facile de faire du don du vivant, évidemment, parce que ça ne demande pas toute la logistique du prélèvement qui est très lourde, mais il ne faut pas penser que le don de la greffe à partir de donneurs vivants va résoudre les problèmes. Il ne va pas résoudre les problèmes, puisque la demande, et on le sait très bien en Afrique, particulièrement, elle est en augmentation importante, et que malheureusement, on développe la dialyse, qui coûte beaucoup plus cher au gouvernement et aux États que la greffe, alors que la greffe pourrait être développée, et effectivement, le donneur vivant ne résoudra pas les problèmes, et il faut arriver à un moment donné à développer le donneur décédé. C'est ce qui a été fait en Afrique du Nord, c'est ce que le professeur Boukardiouf à Dakar essaie de développer aussi. Donc c'est possible de le faire aussi là-bas.
Juste une dernière question, professeur Nyonsaé. Est-ce qu'il y a eu l'équivalent d'une agence de biomédecine en Côte d'Ivoire?
Pas tout à fait. Justement, tout à l'heure, je vous disais que il y a un décret qui a été signé par le président Alassane Ouattara le 17 octobre 2012, justement pour créer cette structure qui va non seulement organiser la transplantation, disons que tout ce qui concerne la prévention, le traitement de l'insuffisance rénale et la transplantation, et qui va également jouer ce rôle de structure de biomédecine. Et je rebondis sur ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Effectivement, pour commencer la greffe, il faut un cadre juridique. En Côte d'Ivoire, il existe une loi depuis 1993 qui autorise l'utilisation de substances d'origine humaine dans un but thérapeutique. Et en 2012 également, le président Alassane Ouattara a signé un décret qui autorise un décret d'application de cette loi. C'est grâce à ce décret que nous avons commencé la greffe. Et bien sûr, je suis d'accord avec lui que le don à partir de la greffe à partir de donneurs vivants, ça ne suffit pas. Il faudrait qu'on arrive rapidement au donneur cadavérique. Mais pour cela, il faut une infrastructure. Et il faut une logistique, comme il l'a dit.
Et que vous n'aviez pas encore, absolument, sur ça. Merci beaucoup, vous nous tiendrez au courant, hein, professeur Nyonsaé. Je rappelle que vous êtes chef du service de néphrologie au CHU de Yopougon, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On arrive vraiment à la fin de cette émission. Docteur Karim Laoubadia, juste une dernière question. On a beaucoup parlé de greffe, on a parlé de dons de gamètes, on n'a pas parlé de dons de moelle osseuse. C'est aussi dans votre rayon et on manque aussi de donneurs.
C'est aussi dans mon rayon, comme vous le dites. Effectivement, l'agence, le registre France Greffe de Moelle a rejoint l'agence à la création de l'agence en 2004, qui avait succédé à l'établissement français des greffes, hein, l'agence de la biomédecine. Et donc, nous avons effectivement le registre des donneurs vivants de moelle osseuse et nous faisons des campagnes de dons de moelle osseuse régulièrement, chaque année, au mois de mars et avec des rappels au mois de septembre. Et c'est important effectivement pour traiter toutes les maladies hématologiques qui nécessitent effectivement un don de moelle osseuse. On manque de donneurs aujourd'hui dans certaines catégories de population, effectivement d'origine géographique différente.
Issus des migrations asiatiques, africaines.
Voilà, issus des migrations en général. Et ce qui se passe, c'est que le registre aujourd'hui a 240 000 donneurs inscrits. Nous avons développé une stratégie pour les années à venir pour développer, parce que les besoins, c'est surtout dans le domaine, c'est plutôt des hommes jeunes et venant d'origine géographique très variée. Donc c'est ça la stratégie de développement du registre France Greffe de Moelle. Il est important effectivement que chacun soit sensibilisé à ce don de moelle osseuse.
Nikos Kalampalikis, juste une dernière question. On a longuement parlé avec vous du don de gamètes, plus particulièrement du don de spermatozoïdes, avec la recherche que vous avez menée. Est-ce que dans cette recherche, il en ressort un peu des préconisations pour faciliter le don?
Oui, et certaines des préconisations, en tout cas, ont déjà été mises en place, étant donné que depuis quelques années, il y a eu une formidable, en tout cas, campagne d'information qui a été menée. Dorénavant, les personnes qui souhaitent se renseigner, s'informer, peuvent tout simplement regarder sur les sites spécialisés de l'Agence de la biomédecine, sur les sites web, et trouver toutes les informations nécessaires. À partir de là, effectivement, il y a aussi un certain nombre de conclusions, je dirais pas là tant de préconisations, mais de conclusions qui sont assez importantes et intéressantes concernant l'encadrement, en tout cas, de cette technique de procréation médicalement assistée en France, qui a un cadre aussi législatif assez particulier et assez renforcé.
Merci beaucoup d'être intervenu, Nikos Kalampalikis. Je rappelle que vous êtes professeur de psychologie sociale et vous étiez en direct des studios de Radio France à Lyon. Il faudra qu'on fasse toute une émission sur ces questions de dons de gamètes. On voit que c'est important. Merci beaucoup, docteur Karim Laouabdia. En tout cas, ce que je retiens de cette émission, c'est qu'on manque de donneurs dans plein de domaines.
Dans tous les domaines qui nous concernent.
Voilà, absolument. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle que l'Agence de biomédecine fête donc ses 10 ans et organise des journées scientifiques à la fin de la semaine. Pour terminer, on a au téléphone, on va parler de la canicule qui sévit au Nord Bénin, et on a au téléphone le docteur Moussa Maman Bello. Docteur Moussa Maman, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Vous êtes maire de Karimama, vous êtes médecin, ethnopsychiatre, tradipraticien, vous avez plusieurs casquettes, un parcours d'ailleurs assez incroyable. Vous êtes déjà intervenu plusieurs fois dans Priorité Santé et là vous nous avez alerté parce qu'il y a une canicule au nord du Bénin. Quelle est l'ampleur de cette canicule?
Écoutez, il est difficile de définir l'ampleur parce que nos malades qui sont victimes de cette canicule restent chez eux et ils meurent. Et souvent, ils n'êtes pas au centre. Alors, il est difficile de les répertorier et de les identifier en tant que malades.
Directement lié à la canicule. Mais j'imagine.
De la canicule.
Oui, ce que vous arrivez à quantifier comme conséquence, c'est les pertes, je dirais, agricoles et donc des problèmes assez vite de malnutrition.
Oui, ce qu'il y a, c'est que la sécheresse a entraîné un fort taux de malnutrition qui est déjà chronique dans la commune. Et il y a eu également beaucoup de morts d'animaux. Les arbres n'en parlent pas, ils sont tous en train de sécher. Je suis venu dans lequel tout le monde peut boire et sec.
C'est ça. Vous êtes au bord, là quand on vous parle, là, vous êtes au bord du fleuve Niger, c'est ça?
Ben oui, nous sommes au bord du fleuve Niger, nous sommes riverains du fleuve Niger.
Oui. Et le fleuve est quasiment...
Cette année, c'est particulier.
Et en quoi, justement, la canicule est plus importante cette année que les autres années?
Eh bien, on n'a jamais frôlé le degré, 52 degrés ou 50 degrés à l'ombre. C'est seulement cette année qu'on a pu, le jeudi 21 dernier, on a frôlé les 52 degrés. Et excusez-moi le terme, ça fait péter des cornes à tous les lieux, quoi.
Oui, oui.
On a perdu le mouvement parce que les gens ont des têtes.
Oui, et comme on l'a vu nous en France, c'est ça.
Oui.
Comme on l'a vu nous en France au moment de la canicule en 2003, ça a un impact énorme sur les personnes âgées. Et vous, c'est exactement ce que vous constatez aussi au nord du Bénin. C'est ça. Docteur Moussa.
Le problème, c'est que c'est un petit phénomène qui nous détruit. Mais comme ça, c'est pas une ampleur au niveau régional, bon, ça n'intéresse pas beaucoup les gens.
C'est ça. Oui, il n'y a pas beaucoup de réactions de la part des autorités. On vous dérange là en pleine réunion d'une plateforme communale de prévention des risques de catastrophe. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement, à la communauté internationale? Vous demandez quoi? Il faudrait faire quoi?
Nous demandons qu'on nous fasse des fourrages, des curages des techniques, etc. De nous aider de faire des aires de pâturage pour les animaux,
Et entre autres des forages pour trouver l'eau. Je suis désolée, Moussa Maman, la ligne téléphonique est vraiment très très mauvaise avec le Nord Bénin. Merci de nous avoir alerté sur cette situation catastrophique. Vous nous tiendrez au courant de ce qui se passe et on comprend bien que vous voulez mobiliser la communauté à la fois nationale et internationale sur le besoin entre autres d'eau et la question des forages. Merci beaucoup Moussa Maman. Pour terminer, on a en ligne Stéphane Besançon. Bonjour Stéphane.
Bonjour Claire.
Comme toutes les semaines, on a droit à votre chronique nutrition, d'habitude le lundi, mais lundi on a eu un reportage en République démocratique du Congo, donc c'est aujourd'hui que vous intervenez. Depuis quelques semaines, vous vous intéressez à la préparation du jeûne du Ramadan, et la première question qu'on se pose quand on parle de l'association entre le diabète et le Ramadan, c'est de savoir ce qui change finalement pendant le mois de Ramadan pour les personnes qui sont atteintes de diabète.
Alors on peut noter deux changements principaux qui peuvent être source de difficultés pour les personnes atteintes de diabète. La première, c'est les changements du profil alimentaire et la deuxième, c'est les changements au niveau des rythmes de vie. Comme on l'a vu dans les chroniques précédentes, l'alimentation est beaucoup plus riche en sucre et en matières grasses durant cette période. Et d'autre part, on l'a vu aussi dans les chroniques précédentes qu'il y a d'importantes modifications du mode de vie liées à la période du Ramadan qui vont favoriser l'apparition ou l'aggravation des complications liées au diabète.
Quels sont justement précisément les risques qui sont liés au jeûne pour les personnes atteintes de diabète?
Alors il faut d'abord rappeler clair que la majorité des études ont démontré une augmentation du risque des complications aiguës liées au jeûne du Ramadan et au diabète. C'est-à-dire qu'il y a réellement un risque de jeûner quand on est diabétique. Par exemple, l'étude Epidiar, une des dernières études qui a été menée sur cette thématique dans 13 pays, a démontré que le jeûne entraîne une multiplication par 4,7 du risque d'hypoglycémie sévère chez les patients diabétiques de type 1 et par 7,5 chez les patients diabétiques de type 2. De même, le risque d'hyperglycémie, cette fois-ci, pendant la même période, 3 par 3 chez les diabétiques de type 1 et par 5 chez les diabétiques de type 2. Donc là aussi, on a un risque vraiment très, très sérieux de complications.
Ces données font assez froid dans le dos d'ailleurs, hein. Toutefois, pour beaucoup de personnes atteintes de diabète, suivre le ramadan est essentiel. Pourtant, vous l'aviez bien dit, hein, dans une chronique précédente, le Coran prévoit bien une exception quand on est malade pour ne pas suivre le ramadan. Alors comment peuvent-ils savoir, les personnes, s'ils peuvent ou non pratiquer le jeûne du ramadan?
Alors, je pense que déjà les auditeurs doivent savoir qu'ils ne doivent pas prendre eux-mêmes cette décision. Car c'est une décision qui est très importante, c'est une décision cruciale qui doit être prise par le médecin traitant après que celui-ci ait évalué plusieurs choses. On a l'habitude de classer ces risques, on va dire, en 3 catégories. Alors, d'abord, on a les risques élevés. Donc là, le jeûne est clairement contre-indiqué. Alors, dans la littérature internationale, ces risques, c'est si 3 mois précédant le jeûne, le patient a eu une complication aiguë, c'est-à-dire une glycémie sévère ou une acidocétose, un faible contrôle glycémique, une maladie aiguë associée ou si c'est un diabète de type 1. Maintenant, on a un risque élevé, là aussi le jeûne est contre-indiqué, si le patient présente des hyperglycémies modérées, une insuffisance rénale ou des complications chroniques. Et enfin, on a le risque faible ou modéré, si le patient a un diabète très bien équilibré, traité par certaines molécules comme la metformine et n'ayant pas d'autres pathologies associées.
Dernière question, il nous reste à peu près 30 secondes. Stéphane, si le médecin autorise la pratique du jeûne du ramadan, est-ce qu'une surveillance spécifique doit être mise en place?
Oui. Oui, elle doit être avant le jeûne, absolument avec une éducation pour que le médecin puisse planifier au mieux l'alimentation et l'hydratation, puisque si on le voit bien dans toutes les chroniques, c'est le point central, la planification. Et aussi pour qu'il y ait des consultations régulières pendant le ramadan, pour, comme on l'a dit dans la dernière chronique, si le diabète se déséquilibre, le jeûne soit stoppé immédiatement.
Ce qui est très important. Merci beaucoup, hein, Stéphane Besançon. Comme d'habitude, on retrouve votre chronique sur le blog de l'émission. Vous trouverez toutes les coordonnées sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique Priorité Santé. Demain, on parlera de la santé des enfants et vous pouvez dès maintenant nous poser des questions au 33 1 84 22 75 75 et sur Facebook. À demain.